Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais aller avec vous dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er et au verset 26. Luc, chapitre 1er et le verset 26. C'est un texte que nous connaissons fort bien, pour celles et ceux qui connaissent la Bible, puis peut-être aussi pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Bible, mais qui ont entendu parler de cet épisode-là. Vous savez que la Bible, c'est un livre merveilleux. Il a eu une telle influence, un tel impact eh bien, dans notre monde et dans notre société que même sans la lire, on sait déjà, on connaît certains épisodes. Voyez, hein. Et ici, nous allons voir eh bien, comment l'ange Gabriel s'est adressé à Marie pour lui annoncer eh bien, qu'elle lui annonçait cette bonne nouvelle qu'elle apporterait, qu'elle amènerait eh bien, le Seigneur Jésus. Et nous sommes là, donc au chapitre 1er de l'Évangile selon Luc, et au verset 26, il nous est dit, au sixième mois, alors le sixième mois, c'est six mois après qu'Élisabeth, la parente de Marie, soit tombée enceinte de Jean-Baptiste. Donc c'est six mois après. Voyez. Et il nous est dit, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses dans ce texte extrêmement riche, mais qui nous encourage à placer notre confiance dans le Seigneur lorsqu'il est dit notamment que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Mais ça, c'est normal parce que Dieu, c'est Dieu et il commande toutes choses et toutes choses sont entre ses mains. Et je voudrais m'adresser à vous ce matin en prenant cet axe dans tout ce qui était partagé, dans tout ce que nous avons lu et vous parler de la grâce de Dieu. Vous avez remarqué qu'au verset 28, il nous est dit, « Je te salue, toi qui, une grâce a été faite. » Et un peu plus loin, au verset 30, il lui dit, « Tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et je voudrais vous parler de cette grâce. La grâce de Dieu, c'est un trésor inestimable. Et lorsque nous lisons la Bible, trouvons que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, eh bien, la Bible nous parle abondamment de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est, elle est dans le caractère de Dieu. Alors, je vous lis simplement, là, ça ne va pas apparaître à l'écran, mais je vous lis simplement quelques textes de la Bible. Dans Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 18, il est dit, « Cependant, l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. » Donc, on s'aperçoit, c'est dans le caractère de Dieu. Et puis, la grâce de Dieu témoigne de l'œuvre de Jésus à notre égard, l'œuvre du Fils de Dieu, puisqu'il est dit, par exemple, dans Romains, au chapitre 5 et au verset 15, « La grâce de Dieu est le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, a été abondamment répandu sur beaucoup. Voilà, la grâce, le don de la grâce venant de Christ a été abondamment répandu sur beaucoup. Et puis, cette grâce révèle ce dont nous avons vraiment besoin. On va définir un petit peu ce que c'est la grâce. Mais déjà, sachez que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu qui veut faire grâce. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est une œuvre de grâce. Et moi, j'en ai besoin. Et l'apôtre Pierre dira dans Actes 15 au verset 11, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. » J'ai besoin d'être sauvé. Comment je peux être sauvé? Parce que Jésus, eh bien, me fait grâce. Alléluia. Il m'apporte la grâce de Dieu. Et puis, eh bien, un autre point, cette grâce que, et c'est dans cette grâce que la Bible nous appelle à demeurer. Tu peux avoir des années de conversion, avoir fait toutes sortes de bonnes œuvres, et tant mieux, et il faut en faire. C'est ainsi aussi qu'on est béni quand on fait ce qui plaît au Seigneur, mais tu n'es pas sauvé par tes bonnes œuvres, tu es sauvé par la grâce de Dieu. Et Acte 13, 44 dira ceci, c'est Paul qui parlera, l'apôtre Paul, il exhorte des chrétiens à rester attachés à la grâce de Dieu. Alléluia. Alors vous avez remarqué que ce thème-là de la grâce de Dieu, eh bien, il est abondamment évoqué dans les Écritures. Et nous en avons besoin. Alors, j'en viens à une définition. Qu'est-ce que c'est que la grâce? De manière générale, on dit, eh bien, c'est une faveur imméritée. Quelque chose qu'on nous donne, qui a de la valeur. Dieu nous est favorable, mais on ne le mérite pas. Vous voyez? On va y revenir. C'est aussi l'attitude de Dieu qui regarde l'homme avec faveur et qui lui offre sa protection, sans son secours, sans limite. C'est-à-dire que dans ce que Dieu veut faire dans ta vie, te secourir, te sauver en te pardonnant, il n'y a aucune limite en ce qui le concerne. Et dans ce qui nous est dit dans le texte que nous avons lu ensemble, rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucune situation dans sa grâce que Dieu ne peut atteindre. Alléluia! Et Dieu veut atteindre tous les hommes. Et c'est pour cela que nous allons comprendre ce matin, eh bien, ce que c'est que la grâce de Dieu. Nous allons comprendre que nous avons besoin également de la, c'est le plan qui est là, de la révélation de cette grâce. Vous avez remarqué que Marie a eu besoin qu'un ange vienne lui dire « Tu as trouvé grâce devant Dieu ». Parfois, on n'est même pas au courant de nos privilèges. Et on a besoin de savoir, pour le vivre, ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et c'est pour cela que je vous invite à lire abondamment les Écritures. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, vous ne saurez jamais ce que Dieu veut faire dans votre vie. Merci Seigneur pour les chants, ils permettent d'exprimer notre louange avec émotion. On n'est pas que d'un morceau, on n'est pas un morceau de bois, on a besoin de se jouir, on a besoin parfois de pleurer devant le Seigneur. En préparant ce message, j'ai lu certaines choses, je me suis tenu devant le Seigneur, mais en voyant ce que le Seigneur est capable de faire, littéralement je pleurais devant le Seigneur. Sa grâce, elle est tellement extraordinaire. Alléluia. Mais ce n'est pas que les larmes dont nous avons besoin ou les rires. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu veut faire. Alléluia. Et la foi, elle ne vient pas des larmes, elle ne vient pas des rires. La foi, elle vient de ce que tu entends. Alléluia. Elle vient de la parole de Dieu. Amen. Et puis, nous allons voir ensemble la puissance de la grâce. Elle est puissante, cette grâce. Et on va savoir pourquoi Dieu veut que cette grâce soit forte et puissante dans ta vie, afin que tu sois aussi participant de la bénédiction de la grâce de Dieu. Bon, on a un programme, hein? Amen. Vous êtes là? Vous êtes prêts? Allez, on va commencer. Le premier point, c'est le Dieu de grâce. Donc, la grâce de Dieu, elle est employée à plusieurs reprises, et à deux reprises, hein, dans ce que nous avons vu ensemble. Une grâce, eh bien, t'a été faite, et tu as trouvé grâce devant Dieu, et Marie, eh bien, découvre la nature de Dieu, qui est généreux, qui est miséricordieux, et qui s'intéresse à elle. Toutes celles et ceux qui lisent la Bible connaissent, eh bien, le caractère miséricordieux du Seigneur. Alléluia! Lorsque nous tournons les pages des Écritures, eh bien, nous découvrons par exemple un homme qui va avoir une influence notable, eh bien, pendant des générations, parce qu'il aura répondu à l'appel de Dieu. Cet homme, c'est Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham? Voilà, Abraham qui donnera naissance à Isaac, Isaac qui donnera naissance à Jacob, Jacob qui deviendra Israël, et par lui, eh bien, toute une nation, eh bien, va naître la nation d'Israël, qui n'aura d'existence que pour, eh bien, permettre au Christ, au Sauveur du monde, eh bien, de venir sur cette terre, voyez-vous. Et nous découvrons que tout a commencé parce que, eh bien, Dieu s'adressa à Abraham alors qu'il ne connaissait rien des choses de Dieu, en lui disant « Va-t'en de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai, et là je vais te bénir. » Et il lui parle sans cesse « Je vais te bénir, tu seras une source de bénédiction, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Et il découvre, alors que Abraham est en complète ignorance, eh bien, il découvre, eh bien, que Dieu lui veut du bien, alléluia. Et peut-être quelqu'un découvre pour là ou la première fois, eh bien, le message de la Bible, le message de l'Évangile. Et je voudrais te dire ceci, ne crains pas, n'aie pas peur, Dieu t'aime, alléluia. Et comme nous avons parlé tout à l'heure d'une grâce, ben c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, une grâce. Vous savez, il y a des années en arrière, la grâce présidentielle pour faire sauter les PV a été annulée. Vous vous souvenez de ça, messieurs? Vous vous souvenez? Les dames, elles conduisent mieux. Est-ce que... Non, mais... Là, les frères, là, ils sont en train de dire, frère, pasteur, ne réveille pas d'anciens souvenirs. Voilà. Hein. Et on s'attendait à ce que le président nouvellement élu annule toutes les dettes. Ça a disparu, voilà. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grâce, ça ne se mérite pas. Ça ne se mérite pas. Ça, tu peux le mettre, hein, c'est dans la liste des versets, Stéphane. Il nous est dit ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Normalement, on ne mérite pas d'être aimé. On ne mérite pas que Dieu s'intéresse à nous. Nous méritons le jugement. Mais au lieu de cela, nous découvrons, eh bien, que Dieu veut faire grâce. Alléluia. Dans ta vie, dans ta situation, Dieu veut amener le bonheur, la paix. Et il dit à Marie, eh bien, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. Et je voudrais te dire ceci, et ça c'est le Dieu de la Bible, eh bien, qui s'adresse à nous, je suis avec toi. Je ne suis pas contre toi. Moi, je porte un beau nom. La Bible nous dit qu'on aura des noms nouveaux dans le ciel. Mais mon nom, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Amen. Je voudrais te dire, Dieu est avec toi. Alléluia. Et il veut te soutenir. Il veut te bénir. Peut-être que tu es... Je me suis mis à la place de Marie et elle s'est posé cette... Et l'Écriture nous dit, hein, je reviens sur ce qui s'est passé, un ange qui entre chez elle et qui lui dit « Je te salue, toi, qui une grâce était faite », elle est troublée par cette parole. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Etc. Et il est obligé de la rassurer. Elle se trouve à Nazareth et peut-être que toi, eh bien, tu te sens vivre comme dans une vie qui ressemble à Nazareth. Et un homme de la Bible dira, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Est-ce que de ma vie, est-ce que de ce quartier, est-ce que de cette famille, est-ce que après toute ta situation que tu as traversée, tes échecs, mais est-ce qu'il peut se passer quelque chose de bon dans ta vie, là, dans ton Nazareth? En faisant des recherches sur le nom de Nazareth, c'est intéressant, l'étymologie, et dans la Bible, les mots, les noms ont un sens. Alors, il ne faut pas faire dire tout et n'importe quoi, mais quand même, ben, je vous ai dit, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ben, c'est beau, non? Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, au fond, là. Voilà, vous attendez la réponse. Kélan, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, aidez-le. Vous voulez? Dieu sauve. Merci, Olivier. Merci, Seigneur. Dieu sauve. Mais quel beau nom, alléluia. Dieu est venu pour nous sauver. Mais Nazareth, alors, Nazareth, il y a plusieurs significations. En hébreu et en araméen, celui qui garde, tour de garde, peut-être par rapport à la situation élevée de Nazareth. Voilà, même dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, on voit que on veut jeter Jésus du haut de la montagne, là. Donc Nazareth, position élevée. Alors voilà, c'est une supposition. Voilà. Il y a une autre racine aussi en araméen qui vient de, qui exprime un vœu, le Naziréa, vous savez. On l'appellera Nazaréen, etc. Le Naziréa, une consécration. Mais il y a aussi une autre racine en hébreu qui signifie, eh bien, rameau ou branche. Et certains historiens pensent ceci, je vous lis, cette référence témoigne peut-être de l'espérance des fondateurs de Nazareth, qui étaient des Juifs qui étaient revenus de l'exil babylonien sur la terre d'Israël et qui peut-être se réclamaient de la lignée de David et qui disaient, mais le tronc a été coupé, mais il y a encore une espérance pour nous. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 1er, il est dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Comme un arbre qui a été coupé. Peut-être ta vie, elle était comme ça. Un moment, c'était la grande réussite. Et puis tout a été coupé. Tout s'est arrêté, c'était scié. Le pays a été ravagé. Et le Seigneur te dit, je veux te faire grâce. Le Seigneur est avec toi. Et qu'il y ait comme, eh bien, un rejeton, une pousse, une branche qui va, eh bien, repousser. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous pourrez lire la suite. C'est une prophétie messianique. Cette faible plante qui s'élève sur une terre desséchée, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais te dire ceci, c'est cela la grâce de Dieu. Alléluia. Là où tout s'est arrêté, là où tout a été ravagé, le Seigneur est celui, eh bien, qui veut réparer, qui veut amener, eh bien, la vie tout à nouveau. Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Là où il y a la mort, il est capable de mettre, eh bien, la vie. Alléluia. Là où était la dépression, là où était le péché, eh bien, il met la paix, il met le pardon, il met une vie nouvelle. Alléluia. Je lis rapidement pour vous. Peut-être que ça va apparaître là. Mais ça m'a fait du bien de relire ces versets de l'Écriture. Est-ce que vous aimez lire la Bible ? Alors, je pense que c'est bien de lire la Bible et de relire la Bible et de lire des passages qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peut-être moins, de lire des textes, toute la Bible. Il faut lire toute la Bible. Mais c'est bien aussi de repasser sur son cœur des passages qui nous font du bien. Amen ? Et alors, voyez, Jean 3, 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit... » sauvé par lui, 1 Jean 2:2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. 1 Jean 4:10, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Jean 1:29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Timothée 2:5 et 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Amen. Alléluia. Et je pourrais encore donner plein d'autres versets dans lesquels il nous est dit, mais Dieu veut que tu changes de vie. Il a payé, il a racheté ta vie pour que maintenant une vie nouvelle puisse paraître. Eh bien, là où tout s'est arrêté, là où tout a été coupé, à lui soit la gloire. Alléluia. Vous devriez me dire merci Seigneur. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Et cette grâce, elle a eu besoin d'être révélée. Vous avez remarqué que dans tout ce texte, c'est Dieu qui prend l'initiative. Si, c'est mon deuxième point, hein, si Dieu n'envoie pas l'ange Gabriel, Marie, elle n'est pas au courant de tout ça. Hein. Combien d'hommes et de femmes ne savent même pas que Dieu les aime ?
Ah, s'il y avait un Dieu ! Moi, ma philosophie, c'est ni Dieu ni maître. Certains d'entre nous en étaient comme ça, oui ou non ? On a été des rebelles, oui ou non ? Avant qu'on découvre la réalité de l'amour du Seigneur. Alléluia ! La réalité de la bonté de Dieu. Et elle existe.
Révélation, ça veut dire un mystère qui est dévoilé. Dieu ne veut pas que les choses restent mystérieuses. Il veut nous les révéler. Quelques années en arrière, j'apportais la parole dans un lieu religieux où on disait ceci, c'est que la mort est un mystère. On ne comprend pas pourquoi la mort existe, c'est un mystère. Et pourtant, dans ce lieu religieux, on s'appuyait aussi sur les enseignements de la parole de Dieu. J'ai dit tout simplement, mais tranquillement, sans offenser personne. Mais la mort, ce n'est pas un mystère. Pourquoi la mort existe ? La mort existe parce que c'est la conséquence du péché. C'est écrit, hein ? Il n'y a rien de mystérieux. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, c'est nos péchés qui ont amené la mort. Et la mort, ça veut dire quoi ? Être séparé de Dieu. Voilà, c'est la mort, c'est ça. Il y a la mort spirituelle qu'on a tous expérimenté. Je me sens vide, je me sens... J'ai pas de sens, pas de goût de la... Ma vie n'a pas de sens, mais pourquoi ? Parce que tu connais pas le Seigneur, t'es comme séparé de lui, voyez ? Et puis, un jour, tu découvres le Seigneur, tu es réconcilié avec lui, et t'as la vie ! Tu es passé de la mort à la vie. Alors, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une vie tellement belle, une relation tellement belle, et qui vient de Dieu, qu'elle ne finira jamais. Amen ! Gloire au Seigneur, amen ! Mais le monde a besoin de le savoir. Et si eh bien, ces mystères ne sont pas révélés, eh bien, on reste dans l'ignorance. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans l'ignorance. Dans Actes 10, 38, Pierre se souvient du ministère de Jésus. Et il dira, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire que, vous le savez très bien, le Seigneur est allé au contact. Oui ou non ? Lorsque vous avez entendu parler de Jésus, c'est parce que c'est quelqu'un qui vous a parlé du Seigneur. Vous étiez peut-être sur Internet, vous étiez peut-être dans une démarche personnelle, vous vous posiez toutes sortes de questions, mais à un moment, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est passé où vos yeux se sont ouverts parce que quelqu'un, quelque chose, l'action de l'Esprit de Dieu vous a révélé Jésus. Alléluia, amen. Et souvenez-vous du ministère de l'Église. Eh bien, Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, ils ne savent pas, mais faites-leur connaître eh bien, que j'ai vaincu, alléluia, qu'une vie nouvelle eh bien, est capable eh bien, de se faire à vous. Et je me mets à la place de Marie et se dit, mais c'est extraordinaire ce qui m'arrive, je suis dans mon Nazareth là. Vous savez, si la Bible n'avait pas parlé de Marie, personne ne saurait qui elle est, hein. C'est comme Abraham, hein. Abraham, tout le monde en parle, mais si ce n'était pas la Bible qui en avait parlé, si Dieu ne s'était pas révélé à lui, personne n'en parlerait. Je voudrais vous dire que si le Seigneur ne s'était pas adressé à chacun d'entre nous, bon, on ne serait pas là, moi je ne serais pas là. Hein. Je dois tout au Seigneur, alléluia. Et Marie, eh bien, Nazareth, on a vu ce que ça veut dire, une branche, un rejeton, tout cela. Et Marie, alors je me suis posé, qu'est-ce que ça veut dire Marie ? Alors, il y a deux racines. Une racine hébraïque où Marie viendrait de Mara, Marie, Mara, l'amertume. Et en égyptien, parce que Marie, la première Marie, Myriam, pas Marie Myriam, mais Marie, enfin Myriam, la sœur de Moïse, elle est née en Égypte. Et mérite en égyptien qui signifie être aimé. Et moi, j'ai fait rapidement un calcul dans ma tête, un rapprochement. Tu dis, eh bien, ça parle des gens qui sont amers dans leur vie à cause de leur existence et qui n'ont besoin que d'une seule chose, c'est de savoir que Dieu les aime. Ils n'ont besoin que de ça. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais Seigneur, ta grâce, elle va jusqu'où ? Parce que Marie, c'est quelqu'un de bien, voilà, une jeune fille à part, etc. Ok, très bien. Et je me suis souvenu d'un témoignage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans les années 80-90, il y a eu un crime horrible qui a été fait aux États-Unis par une jeune femme qui, dès l'âge de 8 ans, ainsi que ses deux sœurs, était entraînée dans la drogue par sa propre mère. À 8 ans, elle fume sa première cigarette de cannabis. À 10 ans, elle prend son premier shoot d'héroïne. Toujours entraînée par sa mère, elle se prostitue à l'âge de 14 ans. En 1979, elle a 20 ans, elle se drogue à mort. Et c'est 5 années de descente aux enfers. En juin 83, défoncée par l'alcool, par la drogue, par les médicaments, Elle est dans un état démentiel. Je passe certains détails. Et avec un complice, elle s'attaque à un garagiste, à une jeune femme, qu'elle tue à coups de pioche dans le dos. Et cette femme, peut-être vous en avez entendu parler, s'appelle Carla Tucker. Voilà, c'était... Et vous avez aussi son témoignage qui existe, qui est très édifiant, qui est en librairie. Vous pourrez vous... Et cette femme, c'était au Texas, elle est condamnée à mort. Voilà, en raison de ce qu'elle a fait, crime horrible. Et puis elle va donner, lors de son procès, elle va donner des détails, mais où vraiment, c'est comme si c'était le mal incarné, cette femme. Depuis qu'elle est née, elle nage dans l'immoralité, elle nage dans la violence. Et dans la prison, il y a quand même un office religieux. Vous croyez que le Seigneur, la grâce de Dieu, elle va jusque dans les prisons, même vers ceux qui ont commis les pires délits, la grâce de Dieu. Et elle dira, un soir après l'office religieux, j'ai volé une Bible et je l'ai emportée dans ma cellule. Cachée dans un coin, j'ai ouvert la Bible. J'ai commencé à lire. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais je me suis retrouvé à genoux sur le sol, pleurant et demandant à Dieu de me pardonner de tout ce que j'avais fait. J'avais assassiné sauvagement 2 personnes et à cause de moi, d'autres souffraient. Et pourtant, Dieu me disait, j'ai prié le Seigneur en demandant, « Seigneur, je ne voudrais pas pleurer. » C'est compliqué, hein ? Et pourtant, Dieu me disait, « Je t'aime. » Je réalisais que j'étais aimé comme ça, tel que j'étais. Tout le poids de mes actes passés a fondu sur moi. À ce moment-là, Dieu a pénétré au plus profond de moi-même pour enlever les racines de ma violence et y habiter lui-même. Juste après ma condamnation à mort, j'ai reçu une lettre de Peggy, la sœur de l'une des victimes. Elle écrivait qu'elle me pardonnait, qu'elle m'aimait. Pardonner, ce n'est pas nier, ignorer, ni oublier ce que nous avons vécu ou ressenti. Nous ne pouvons pas oublier notre passé, notre mémoire est excellente et elle exclut habituellement le pardon. Mais là, elle a trouvé Jésus-Christ, qui l'a pardonné. Et après sa conversion, Carla n'était plus la même personne. Elle vivait comme une résurrection. Elle vivait enfin libérée de ses démons qui n'avaient plus de pouvoir sur elle. Pour tous les témoins de sa génération, les geôliers, les prisonniers, elle était devenue un autre être, réellement touchée par la grâce. Une personne maintenant douce, aimable, partageant sa foi et son amour avec ses co-détenus. Et ce furent 12 années sans faille de vie transformée. Ce n'est rien d'être libre ou en prison. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. L'impact de sa conversion a eu un tel effet que vous savez qu'au Texas, aux États-Unis, il y a toutes sortes de... Voilà, la peine de mort, c'est tout un débat. Et y a certains qui sont à fond pour, et notamment un pasteur qui disait, ouais, c'est pour la peine de mort, mais donc il y a eu des appels pour qu'elle soit graciée, et un des pasteurs qui plaidait sa cause dira ceci, mais il n'y a plus rien de commun entre la personne qu'elle était il y a 14 ans et celle qu'elle est devenue maintenant. Il s'est passé réellement une conversion, une transformation dans sa vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, pour l'histoire, sachez que Carla Tucker, eh bien, a été condamnée à mort. La grâce lui a été refusée. Le gouverneur de l'époque du Texas était un certain George Bush. Et malgré la mobilisation de toute une partie de chrétiens en sa faveur, un article de presse dira ceci, la grâce lui a été refusée. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que malgré tout, c'est que devant Dieu, elle a obtenu grâce. Alléluia. Et je voudrais te dire, tu as trouvé grâce. Alléluia. Le Seigneur veut te le dire. Et
ne dis pas, mais je ne comprends pas, mais tous ces malheurs qui me poursuivent, je n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, j'ai épreuve sur épreuve. Mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment béni? Je voudrais te dire ceci, oui, tu es béni. Oui, tu as obtenu grâce de la part de Dieu. Jésus a donné sa vie pour toi. Dans la traduction du Semeur, dans 2 Corinthiens 5:21, il est dit « Celui qui était innocent de tout péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. » Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire ceci. Oui, tu as obtenu grâce. Et n'en doute absolument pas, et laisse le Saint-Esprit te renouveler, te régénérer, comme il a pu le faire pour Marie, comme il a pu le faire pour Carla Tucker. Qu'est-ce qui s'est passé pour Marie? La grâce est incarnée. Dire, mais comment, Seigneur, je fais pour vivre cette grâce? Comment est-ce que ça peut venir d'un homme? Tu m'annonces que je vais porter le Messie, le Christ, mais comment faire? Le Saint-Esprit va le faire. Et je voudrais te dire ceci, cette vie nouvelle que Dieu veut te communiquer, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Alléluia. C'est pas l'œuvre d'un homme, c'est pas l'œuvre d'un pasteur, c'est pas l'œuvre d'une église. C'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour tant d'autres. Christ est mort pour moi à la croix. Il est ressuscité. Il intercède pour toi. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il te fait vivre une vie nouvelle, alléluia, où même si tu n'es pas parfait, même si tu as encore, comme j'ai besoin, de faire encore beaucoup de progrès, mais il est toujours avec moi, alléluia. Il me relève, il me pardonne, il me redresse, il me restaure, il me reprend parce qu'il m'aime, mais jamais il ne m'abandonne, alléluia. Et il change même le mal en bien. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Et je voudrais te dire que cette grâce, il ne faut pas la rejeter. Parce que cette grâce, elle fait autorité. Mon troisième point, c'était la puissance de cette grâce. Vous avez remarqué que lorsque l'ange va parler de Jésus, il ne va pas parler du petit Jésus, mais il va parler de Jésus qui règne sur la maison de Jacob, dont le règne n'a pas de fin. Il parle de celui qui est grand, de celui qui est appelé le Fils du Très-Haut. Il parle qu'il aura le trône de David. Il est appelé le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, c'est que cette grâce, elle fait autorité. Pourquoi Dieu s'emploie à dire à Marie, « Faut pas que tu aies peur. » Parce que la grâce, c'est vrai, c'est un message de douceur, c'est un message d'amour. C'est l'intérêt que Dieu porte sur notre vie. Il ne tient pas compte de nos péchés, il nous pardonne. Jésus même. Et en même temps, il nous dit, « Mais n'aie pas peur. » Et lui, il règne. Parce que, comme on l'a lu tout à l'heure dans le témoignage, notre mémoire et même le prince de ce monde est capable de réveiller d'anciens dossiers, n'est-ce pas? Et de te rappeler toutes sortes de choses, des échecs. Et c'est là où on a besoin de nous tenir dans la... Tout à l'heure, on a entendu parler d'un don spirituel qui parlait de notre identité. Mais la grâce, elle te change. La grâce de Dieu, elle te transforme. C'est l'apôtre Paul qui dira ceci dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Et lui, il parle en tant qu'apôtre que le Seigneur, il a mis à l'œuvre, il a mis en action, il a servi le Seigneur de tout son cœur. Mais il dira « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et lui, ça a été un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent. Il y a quelque temps en arrière, en lisant la première épître aux Corinthiens, j'ai lu ceci. Bon, il règle quelques problèmes d'unité dans l'Église. Et il précise qu'il n'a pas baptisé grand monde à Corinthe. Et même, je pense que dans sa sagesse, le Seigneur lui a donné cette sagesse, Paul, ne fais pas trop de baptême. Parce que on va se disputer pour savoir, moi j'ai été baptisé par Paul, et moi j'ai été baptisé par Timothée, et moi ceci. On va chercher une gloire par rapport au baptême. Et Paul va écrire que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si vous glorifiez quelqu'un, ne glorifie pas du pasteur qui t'a baptisé, glorifie Jésus qui t'a sauvé, alléluia. Et l'apôtre Paul dira ceci quand même,
et j'ai baptisé, pas beaucoup d'entre vous, si ce n'est Stéphanas et sa famille. Et Stéphanas, moi je me suis dit, ça m'a fait quelque chose en le lisant. Il faut connaître un peu le grec, mais Stéphanas, Stéphane, la traduction c'est Étienne en français. Et peut-être que quand il a vu Stéphanas, il y a eu un flashback de quelques années en arrière. Tu te souviens ? Peut-être une petite voix là. Tu te souviens quand tu tenais les habits de ceux et celles qui, qui lapidaient Étienne, le témoin du Seigneur, un innocent ? Toi, tu étais avec eux. Et maintenant, tu oses prêcher ? Maintenant, tu oses être un pasteur ? Etc. Tu oses servir le Seigneur ? Etc. Et la Bible nous dit, mais cette grâce, elle fait autorité. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est plus, eh bien, l'ancien Paul, mais c'est celui qui est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Et mon frère, ma sœur, eh bien, considère ce que Dieu a fait dans ta vie. Et Marie dira, je suis la servante du Seigneur. Un peu plus loin, elle dira ceci, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est Dieu qui a voulu que je sois ce que je sois. Alléluia. Et Satan n'a rien à voir là-dedans. Et au contraire, eh bien, il n'a qu'une seule chose à faire, eh bien, c'est à reculer, parce que lorsqu'on s'attaque, eh bien, à un enfant de Dieu, c'est à Jésus lui-même qu'on s'en prend. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque le Seigneur fait un miracle, je pensais à cette femme. Bon, je vais appeler à vos souvenirs, hein, on ne va pas lire tous ces textes, mais dans Luc 13, lorsqu'il y a cette femme courbée que le Seigneur redresse, tout de suite, il y a quelqu'un qui vient saper l'autorité de Jésus et empêcher que cette femme se réjouisse. Il dit, mais venez vous faire guérir les 6 jours de la semaine et pas le jour du sabbat, etc. Et tout de suite, Jésus défend cette femme hypocrite, mais même les animaux, le jour du sabbat, vous les détachez pour les mener à boire. Et cette femme que Satan tenait liée depuis des années, ce qu'il ne fallait pas la délier le jour du sabbat, et il montre qu'il est le maître du sabbat, celui qui apporte le complet repos. Alléluia. Et il dit, c'est moi qui ai pris sa défense. Et je voudrais te dire ceci, mon frère, ma sœur. Nous avons avec nous celui, eh bien, qui a autorité, eh bien, pour nous pardonner tous nos péchés, pour dire, eh bien, le passé, c'est terminé. Jésus-Christ est Seigneur. Notre victoire dépend de lui. Et ce que tu es dépend de Jésus et seulement de lui. C'est pour ça. Connais ton Seigneur. Mais que chaque jour, vous puissiez passer un moment pour dire, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître, Seigneur. Parce que de votre connaissance de Jésus-Christ dépendra la profondeur et la fermeté de votre salut. Et vous ne rechercherez pas des situations, je ne sais pas, pour dire, Seigneur, je ne veux plus souffrir. Ce n'est pas ça. Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Je reviens sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira ceci, mais moi, Seigneur, j'ai des épreuves, j'ai une écharpe dans la chair, enlève-la-moi, Seigneur. Jésus dit non. Et à 3 reprises, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous vous souvenez? Vous connaissez bien votre Bible, finalement. Hein voilà. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mon regard sur l'Église, c'est ceci. Je constate que ce sont les personnes, les frères et les sœurs qui se considèrent les plus faibles, qui mettent toute leur vie entre les mains du Seigneur en disant « Je n'y arriverai pas, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. » Ce sont ceux-là qui durent. Ce sont ceux-là qui persévèrent avec le Seigneur. Parce que la grâce a un ennemi. Lorsque on va dans l'évangile selon Luc au chapitre 1er, vous êtes toujours avec moi, hein ? Voilà. Luc 1er, tout à l'heure on a parlé, on exalte le Seigneur, etc. Tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante, c'est le verset 48. Et elle dit ceci, Marie, il dit, donc le Tout-Puissant a déployé la force de son, verset 51. Le Tout-Puissant a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Et vous avez remarqué que plusieurs reprises, il parle de puissants qui sont sur leur trône, de personnes qui ont dans le cœur des pensées orgueilleuses. Et l'ennemi de la grâce, c'est vraiment ça. Je veux dire, mais en fait, je peux me débrouiller sans le Seigneur. Et c'est pour ça que Paul, volontairement, le Seigneur le laisse dans une situation où il y a des épreuves. Parce que Paul dit, si je n'avais pas cette écharpe, si je ne vivais pas ces épreuves, je deviendrais un orgueilleux. Et si je deviens orgueilleux, je vais croire que mon intelligence, puis c'est un gars intelligent, l'apôtre Paul. Hein. Je veux dire, ça, quand on voit la qualité de ses écrits, bien sûr, il y a l'action du Saint-Esprit, mais il y a aussi le cerveau pour comprendre ce qu'il est en train d'écrire. Hein. Il n'écrit pas au hasard. Hein. Et c'est un intellectuel de premier plan. Et il pourrait dire, mais moi, je peux m'en sortir pour mon intelligence. Et puis bon, allez, le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est fini. Le péché, ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi grave que ça. Et puis, l'amour de Dieu pour moi, j'ai besoin simplement de connaître sa volonté. Et puis, le reste, c'est facultatif. Je vais me débrouiller tout seul. Oui ou non? Puis, on commence à avoir la grosse tête. Et l'Écriture nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et au contraire, il va rester dans une position d'humilité. Dieu va l'amener à cette position d'humilité. Et je voudrais te dire ceci, mon frère, ma sœur, même si tu as des années de conversion, et je voudrais te le dire de la part du Seigneur, attention à l'orgueil. Le succès de ta vie, ce n'est pas que tu réussisses toutes tes entreprises. Merci Seigneur si tu réussis tout. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le succès de ta vie, c'est que tu restes fidèle à Jésus et attaché à sa grâce jusqu'à la fin. C'est ça, le vrai succès. Et Dieu est capable de te donner tout par-dessus. Ça lui appartient. Mais le véritable succès, c'est ça. L'apôtre Paul, qui est un maître à penser pour nous, il va terminer sa vie en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il sera décapité. On dira « Je ne voudrais pas finir comme ça. » Oui, mais enfin, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas la façon dont... Ce qui compte, c'est qu'il a gardé la foi. Amen, alléluia, amen. Nous voulons dire « Seigneur, mais je veux garder cette foi. » Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, ma grâce te suffit. Ce qui compte, c'est que je sois avec toi, Paul. Merci, Seigneur. Amen. Alors, je termine. La bénédiction de la grâce. La grâce, c'est une bénédiction pour nous-mêmes. Je ne vais pas refaire toute la prédication. Vous voulez que je la refasse, la prédication? Allez, on y va. Donc, ça, c'est un rire nerveux. Donc, la grâce apporte la bénédiction, mais la grâce, elle apporte la bénédiction pour les autres. On est béni pour bénir. Jésus, c'était une bénédiction pour Marie, mais c'était une bénédiction pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et heureusement que Marie était pleine de foi, etc. Bon, petite parenthèse, vous êtes bien conscient que Marie, c'est un élément dans la chaîne de la rédemption. Mais ce n'est pas elle qui est morte pour nous sauver. Excusez-moi, je ne veux choquer vraiment personne. Hein. C'est un être humain comme tout le monde qui dira, mon âme exalte, tout à l'heure on l'a dit, hein, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Si elle dit que Dieu c'est son sauveur, ça veut dire qu'elle a besoin d'être sauvée. Voyez, et c'est une grâce qui lui a été faite. Donc, chers frères et sœurs, on ne veut pas idolâtrer Marie. Et puis elle est partie dans le ciel, voilà, et on la verra avec nous, elle sera dans le ciel. Elle est sauvée par grâce, elle aussi. Gloire à Dieu. Mais je voudrais simplement vous dire que cette grâce, elle est en bénédiction. Je vous ai parlé quand le Seigneur m'a racheté, m'était éloigné de Dieu, m'a rattrapé, j'ai obtenu la grâce et le pardon du Seigneur dans ma vie. Il m'a sorti de la drogue, de toutes sortes de pièges dans lequel le diable m'avait fait tomber. Il m'a restauré intérieurement, extérieurement, etc. Et lorsque je suis revenu à la maison, j'avais un petit frère. Ma mère lui parlait de Jésus. Et mon petit frère, Paul, on a 14 ans d'écart. On a 14 ans d'écart. Et mon petit frère, et moi je m'appuyais sur la grâce de Dieu. Mais ce que je ne voyais pas, c'est que mon petit frère, il voyait en moi, alors ce n'est pas à moi, hein. Mais voyez ce que Jésus avait fait dans ma vie. Mais ça a été une bénédiction pour lui. Parce qu'il a dit, mais Seigneur, c'est ça qui est beau. Alors, je veux pas faire les mêmes bêtises que mon frère. Si vous voyez mon frère, il est plus grand, il est plus beau. Voilà. Plus mince aussi. Je veux pas faire comme mon frère, mais je veux suivre Jésus, ce Dieu qui fait grâce, ce Dieu qui pardonne. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que maintenant, bon, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est parce qu'il a dû faire son expérience aussi avec le Seigneur, l'accepter comme son sauveur personnel, etc., etc., etc. Mais c'est aussi pour ça, eh bien, qu'il s'est engagé, eh bien, avec le Seigneur et que maintenant, il le sert. Gloire à Dieu, amen. Ça veut dire que quand on laisse Dieu agir dans notre vie, la grâce de Dieu qui surabonde, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, mais ça nous touche, nous, mais ça déborde. Alléluia, ça déborde tout autour. Ça déborde pour ton épouse, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ton quartier. Alléluia, tu es un témoin de la grâce. Je termine en disant, j'ai noté simplement ce verset, Galates 2, 21, c'est l'apôtre Paul qui dira ceci, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » On voulait qu'on le lise entièrement. Voilà, où est-ce que je retrouve mes notes. Tu l'as trouvé, toi, Stéphane? Je te l'ai envoyé. Voilà. Alors, attendez, on retrouve nos notes. C'est Galates 2 et le verset 20, il nous est dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Ça, apprenez-le par cœur. Hein. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tu l'as chanté, Guillaume. Tu vois comme quoi tout se tient. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. On ne veut pas la rejeter. Alléluia ! On veut dire, Seigneur, mais je veux encore plus de grâce dans ma vie. Amen. Vous voulez bien compris le Seigneur ? Amen. Qu'on dise, Seigneur, je veux me fortifier, je veux rester dans ta grâce. J'ai besoin de toi. Alléluia. Et ce matin...